Évangile de Luc, chapitre 10, versets 25 à 38. Alors, de Jérusalem vers Jéricho. Alors, on voit ça dans les premiers versets. Je voulais vous montrer deux images pour nous aider un peu à comprendre, pour ceux qui ne le savaient pas, mais de Jérusalem à Jéricho. C'est un territoire quand même assez, assez vaste et assez périlleux. En lisant le texte comme ça, ça ne nous vient pas tout de suite à l'esprit, là. Mais c'est intéressant de voir que c'est quand même une bonne route. Ah, excuse-moi, oui, je suis allé à la chambre de bain pour me moucher. J'ai comme l'impression que... J'ai comme l'impression que j'ai bien fait, hein? Oh, les circonstances, des fois, sont... On fait des choses pour prévenir qu'il n'arrive pas des petites choses qui sont désagréables, mais dans le fond, c'est ce qui arrive. C'est vraiment drôle. Enfin, alors on revient. Alors, merci, mon ami. Alors, je voulais que vous ayez ces images-là à l'esprit pour parce que ça donne de l'ampleur au texte que le Seigneur nous amène. Alors, de Jérusalem vers Jéricho, alors vous avez une image de ce à quoi ça ressemble. Regardez, c'est du désert, des montagnes, et c'est une route qui est comme ça. Et je vous dirais, de Jérusalem à aller à Jéricho, il y a une dénivellation qui va jusqu'à 3500 pieds et sur une distance de 25 kilomètres. Alors, on pourrait dire Cap de la Madeleine, là, entre Shawinigan et Grand-Mère. Alors, imaginez, vous voyez l'image, là, la route. Alors, imaginez comme c'est long à pied ou à petit mulet, là. Imaginez comment est-ce que... Alors, vous voyez, là, comment c'est long, comment ça peut être tortueux. Alors, c'est impressionnant. Alors, ce soir, on va se poser la question, comment nous appelle-t-on dans la société, dans notre entourage? Est-ce qu'on nous appelle Sam Harrington ou passe à outre? Alors, on va regarder, en étudiant ce texte, à quoi est-ce qu'on peut... Quelle image, qu'est-ce qu'on dégage et qu'est-ce qu'on laisse derrière nous? Comment les gens peuvent nous percevoir? Alors, on va lire le texte. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? » « Qui lis-tu? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. « Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même... Excusez-moi, un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un Lévite qui arriva aussi dans ce même lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. On va se courber juste quelques instants pour demander au Seigneur de disposer nos cœurs. Seigneur, encore une fois, on se présente quelques-uns de tes enfants devant toi, devant ce trône de grâce que l'on connaît. Et notre prière est que tu nous accompagnes par ton esprit, que tu disposes nos cœurs, Seigneur, au Saint-Esprit, que tu puisses, Seigneur, nous parler et aller dans ce lieu secret que toi seul es capable d'aller et que tu connais bien. Seigneur, fais-nous du bien comme tu sais le faire et parle-nous. Et aide-nous, notre Dieu, encore une fois, durant cette semaine qui commence, à t'honorer et à te glorifier avec ces paroles que tu vas nous enseigner ce soir, avec ces choses que tu veux que nous mettions en pratique. En ton nom. Amen. Alors, vous avez bien saisi, hein, comment nous appelle-t-on, Sam Harrington, ou passe à outre. Alors, un docteur de la loi, alors, dès le début du texte, on voit le mot docteur. Et ici, on est en présence d'un individu, hein, quelqu'un en Israël qui c'était un scholar, c'était un érudit, c'était quelqu'un qui avait étudié les Écritures, c'était une personne très, très instruite. Hein, on pourrait faire un parallèle aujourd'hui avec quelqu'un qui détient un doctorat en études, un doctorat universitaire. Alors, c'est quelqu'un qui est quelqu'un d'instruit. C'était pas quelqu'un du peuple, un simple du peuple, qui n'avait pas d'instruction. Hein? C'était vraiment quelqu'un, à cette époque-là, reculé. Alors, ceux qui avaient il y avait une très grande différence de connaissance entre, par exemple, un berger et un docteur de la loi. Alors, c'est quelqu'un qui était vraiment brillant, intelligent, qui connaissait les choses. Hein? C'était pas quelqu'un qui boitait dans ses connaissances. Il était solide. C'était un leader à Israël. Et ce docteur de la loi s'est levé. Et vous savez, le Seigneur Jésus a parlé librement et longtemps et beaucoup, à profusion. Hein? Et vous savez, on connaît tous que beaucoup de docteurs en Israël, hein, des scribes, des pharisiens, alors ils étaient très, très suspicieux à l'égard du Seigneur Jésus et ils mettaient en doute ce qu'il était, beaucoup plus que ce qu'ils disaient, mais ils essayaient, on n'aimait pas le Seigneur Jésus dans cette caste-là, dans ce groupe de personnes, pour des raisons intérieures à eux-mêmes. Et alors cet homme qui se présente avait entendu parler du Seigneur Jésus, il avait probablement même lui-même, il l'avait peut-être entendu lui-même, l'ayant vu et de ses propres yeux, de ses propres oreilles. Et cet homme arrive et lui dit, et vous voyez, hein, j'ai mis en pourpre, pour l'éprouver, à même titre que le verset 29, voulant se justifier. Alors, c'est négatif, c'est péjoratif. Alors, ce docteur de la loi, qui a pleine connaissance, il a des idées derrière de la tête. Hein. Il veut mettre une trappe à souris. Il veut prendre le Seigneur Jésus. Il veut. C'est malséant, c'est pas bien. Hein, c'est pas la même attitude que Nicodème a eue. Vous savez, Nicodème. Un autre docteur de la loi, Nicodème, avait des attitudes beaucoup plus nobles. Alors, cet homme qui se présente devant le Seigneur Jésus, en bon Québécois, il veut le pogner. Hein? Il veut essayer de le faire tomber puis avoir de quoi contre lui. Un peu comme les politiciens font aujourd'hui. On voit ça, là. Ils sont d'accord avec une chose, mais ils vont aller à la potence contre leurs collègues avec une parole qu'ils croient, mais dans le but de faire tomber l'autre. Alors, c'est vraiment croche. Hein? Je veux qu'on saisisse comment ça peut être croche pour l'éprouver. Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle. Et il savait c'était quoi. Il savait c'était quoi les paroles. C'était un docteur de la loi. Alors, il ne veut pas avoir réponse à ça. Jésus lui dit, et le Seigneur le sait, hein, le Seigneur n'est pas un... Seigneur, est, c'est pas moi, là, et c'est pas vous. Le Seigneur, il l'a vu venir depuis longtemps, mais lui, il ne sait pas. Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, et puis là, parce qu'il l'avait déjà entendu et qu'il était au courant du message du Seigneur, hein, parce que le Seigneur a repris ses paroles à plusieurs reprises, et le Seigneur a insisté pour rajouter, hein, au credo d'Israël, ces versets qu'ils devaient... qu'ils avaient entre les phylactères, et ces versets qu'ils récitaient deux fois par jour, chaque juif récitait ça. Alors, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et puis là, il rajoute, et ton prochain comme toi-même, parce que le Seigneur Jésus, c'est ce qui, hein? C'était le bébé du Seigneur Jésus, ton prochain comme toi-même. Oui, la loi, mais il rajoutait le plus important, on le voit dans Matthieu et dans d'autres places, dans d'autres versets. Et il dit à ces mêmes docteurs de la loi, « Oui, mais il y en a un autre qui est aussi grand. Il n'est pas moins grand. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et ça, c'était un enseignement qui était pratiquement absent des docteurs d'Israël. Et le Seigneur insiste tout au long de son ministère sur cette chose. Au verset 28, « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Dans le fond, ce n'était pas ce que le docteur de la loi voulait savoir. Et là, il continue. Mais lui, voulant se justifier. Alors, voyez-vous, là, encore une fois, les mauvaises attitudes qui vont avec l'éprouver. Il dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Et là, le Seigneur Jésus vient, il prend une histoire, et puis là, il va aller avec cette histoire. Et dans cette histoire, on apprend le message de la vie du maître. Ce que le maître a été. On voit ça dans une belle histoire. Hein, le maître, le maître est né dans le peuple d'Israël. Hein, mais c'était un homme fortement rejeté et méprisé. Il monte, et ses actions, le maître, tout au long de sa vie, ont été portées vers les autres. Et on voit une belle image de ses sentiments et de ses émotions, le maître, à l'égard de nous. Et c'est une belle histoire qui nous laisse avec une image forte que l'on doit mettre dans nos vies. Et je vous fais remarquer que le « Et qui est mon prochain? » Alors, le docteur il pose la question au Seigneur en voulant dire « Qui est mon prochain? » Parce que je sais, j'accomplis la loi, mais notre problème, c'est qu'on n'est pas capable de trouver le prochain. Et le Seigneur, à la fin, va inverser. Alors, il va montrer au docteur de la loi, en fait, tu comprends mal ce que l'enseignement, ce que le Dieu dans les Écritures nous enseigne. Et là, Jésus commence, il prend la parole, il dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Et ici, descendre de Jérusalem à Jéricho, alors comme vous l'avez vu au tout début, là, ça fait plein de sens. Il faut savoir aussi que Jéricho était une ville de sacrificateurs. Et quand ils allaient à Jérusalem, alors un homme, on va le voir, là, un sacrificateur a passé, hein, il passait route, etc. Alors quand les sacrificateurs, plusieurs allaient à Jérusalem pour faire leur service au temple, quand ils avaient fini leur service, ben, ils partaient de Jérusalem et ils s'en allaient dans leur ville de sacrificateurs, à Jéricho. Alors leur service était fini, et j'insiste parce que les sacrificateurs, c'était des hommes très, très, très religieux. Et ils s'abstenaient de faire toutes sortes de choses qu'ils auraient dû faire dans le but de ne pas être souillés. Et dans le but, parce que si tu es souillé, tu en as pour une semaine à te purifier, puis tu peux pas faire ton service. Alors, quand on sait ça, ça nous aide à comprendre un peu pourquoi est-ce qu'ils agissaient comme ça. Mais là, le Seigneur fait exprès de dire Il part de Jérusalem, il s'en va à Jéricho, parce que son service est fini. En fait, il n'y a aucune raison. Vous comprenez? Il n'y en a plus de raison pour dire ton service a été fait. Ce que tu avais à accomplir devant Dieu, là, en tant que sacrificateur, si vous voulez, ton devoir est fait. Alors, tu t'en retournes, alors tu n'as plus de raison de dire non, si vous voulez. Alors, c'est vraiment intéressant comment est-ce que le Seigneur amène ces choses. Alors, on continue. Alors, cet homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, hein, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Alors ici, c'est un homme. C'est probablement, on ne le sait pas, c'est quelqu'un. Et au verset 31, un sacrificateur. Alors, je pense qu'on ne voit pas bien, là, un sacrificateur. Et là, je l'ai écrit en blanc, un sacrificateur. Pourquoi j'ai mis un sacrificateur en blanc? C'est pour se rappeler un sacrificateur. Hein? Hey, c'est saint, un sacrificateur. Il ne faut pas que ça touche à rien d'impur. Hein? Faut que c'est propre, et c'est une belle image. Il ne faut pas que ça salisse. Vous comprenez, là? Un sacrificateur. Et pourtant, un sacrificateur, s'il y a quelqu'un qui est supposé comprendre la pensée de Dieu et devoir agir avec elle, c'est un sacrificateur, c'est lui qui a les Écritures. Hein? Et si on veut faire un parallèle avec aujourd'hui, on pourrait même dire un ouvrier à temps plein ou un ancien dans une assemblée ou quelqu'un qui va enseigner, par exemple, un professeur dans un collège, dans une université, ou quelqu'un qui écrit des livres, c'est quelqu'un qui c'est pas quelqu'un qui vient de naître de nouveau, c'est quelqu'un qui est avancé dans la parole de Dieu, qui connaît Dieu, qui a expérimenté. Hein? Alors, c'est quelqu'un qui doit savoir ce que c'est le prochain, ou qui doit savoir c'est quoi les œuvres qu'on a. Hein? On fait des œuvres parce qu'on est sauvé. Hein, le Seigneur nous a sauvés et maintenant, on aime tellement le Seigneur, le Saint-Esprit qui est en nous, il nous transforme. Alors, on fait des choses maintenant. Alors, hein, ces hommes doivent le savoir, mais c'est précisément ces hommes qui, par hasard, descendent par le chemin et qui voient cet homme et passent à outre. Alors, c'est quand même impressionnant. Alors, comment qu'on s'appelle, Samaritaine ou Passaout? Et on continue notre texte. Et là, un Lévite, lui, c'était le serviteur du sacrificateur. Et lui aussi était sanctifié, hein, par Dieu en raison du peuple d'Israël pour faire le service du temple. Il était près des Écritures. À l'époque, chacun n'avait pas sa Bible comme on les a, là. Alors, le sacrificateur et le Lévite étaient des gens privilégiés parce qu'ils avaient un accès aux choses saintes, aux choses sanctifiées par Dieu, pour le peuple d'Israël, pour l'humanité. Alors, c'était des gens qui avaient une connaissance et qui avaient des images que le petit du peuple n'avait pas. Alors, c'est eux qui devaient savoir comment se conduire et comment agir à l'égard de Dieu. Et c'est précisément ces hommes qui arrivent dans ce lieu et qui voient et qui passent outre. Voyez-vous l'impact que le Seigneur est en train de donner à ce docteur de la loi? Le docteur de la loi est arrivé avec des mauvaises intentions. Il voulait humilier et ridiculiser le Seigneur. Il voulait le prendre au piège. Et le Seigneur, au lieu d'agir comme nous, il lui répond. Et il lui conte une histoire et il lui montre des choses qui sont probablement, fort probablement, arrivées. J'en suis profondément convaincu. Et le Seigneur a vu des choses qui l'ont attristé profondément. Et on voit un texte dans Marc, là. Il jette les regards sur eux tous. Et là, quand il a vu la sécheresse de leur cœur, il a été profondément attristé. Et là, devant eux tous, il a fait un miracle le jour du sabbat dans la synagogue. Il a guéri quelqu'un. Et ils ont tous monté aux barricades. C'est un pécheur. C'est incroyable, hein? Comment que le Seigneur devait... Les Écritures, ils le montrent. Comment est-ce qu'il était profondément attristé de voir la sécheresse de ses cœurs. Scribes et pharisiens hypocrites. Quand il dit « sépulcre blanchi », tous n'étaient pas comme ça. Hein. On a Joseph d'Arimathée, Nicodème et d'autres qui se sont convertis par après. Mais les extrémistes, là, hein, ils n'étaient vraiment pas beaux. Et le Seigneur, il compte cette histoire et il montre au docteur de la loi, « Regarde ce que vous faites. Vous passez outre, vous, les docteurs de la loi. » Et là, la force de la parole. Mais un Sam Haritain qui voyageait, étant venu à un Samaritain. Vous allez voir tantôt, là, un Samaritain, là, c'est pour un sacrificateur juif, là, c'était une fausse sceptique qui marchait. Vous comprenez? Pour que tu deviennes vil, pour que tu deviennes impur, comprenez-vous? Pour un sacrificateur, là, qui lui, là, il est blanc, là, il est saint, il est proche, il ne doit pas s'approcher de personne, il ne doit pas toucher à rien. Vous comprenez, là? Pour lui, un Samaritain, c'était la chose qui pouvait le rendre le plus impur possible sur terre. Un Samaritain. Et là, le Seigneur, il prend un Samaritain. Il le met nez à nez avec un sacrificateur et il est en train de lui dire, « Garde ce qui plaît à Dieu. » Ça, c'est sûr que ça ne passait pas là. Pas devant un cœur sèche, comme l'histoire le raconte. Qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Et regardez les paroles. Fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Waouh, un Samaritain ému de compassion. Hey. Il s'approcha et banda ses plaies. Alors regardez le maître. C'est l'histoire de la vie du maître. Il s'approcha. Il banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. 1 Timothée 3:5. 1 Timothée, c'est la seule place où est-ce qu'on voit dans le Nouveau Testament cette expression en grec, il prit soin de lui. Et c'est quand on parle de qualification pour un ancien dans l'Église, un berger qui va prendre soin de ses brebis dans l'Assemblée. Au verset 5, il est écrit comme qualification, « Car si quelqu'un ne sait pas diriger, on parle ici d'un ancien, quelqu'un qui aspire à avoir la charge d'un ancien dans l'Assemblée, il doit avoir cette qualité, ce qualificatif dans ses entrailles. Il doit être un homme reconnu pour un homme qui prend soin des autres. Il est écrit, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église? Hein? Alors, c'est un homme qui doit prendre soin de son épouse, de ses enfants, et par conséquent, il va, hein, dans un contexte plus large, c'est-à-dire ce sont des personnes qui ne partagent pas la même intimité que lui. Ce ne sont peut-être pas des personnes aussi chères, hein, à son âme. C'est normal, hein, notre épouse. On ne fait qu'une seule chair avec elle. Nos enfants qui découlent de notre union. Nos petits poupons, puis là, nos enfants deviennent grands. Puis c'est sûr qu'on les aime, qu'on a un amour spécial envers eux. Mais le Seigneur nous dit que pour prendre soin de nos frères et de nos sœurs dans l'Assemblée, c'est le même soin. Il n'y a pas de différence. Imaginez comment c'est fort. C'est vraiment fort. Alors, c'est de ce genre de soin-là dont on parle. Un berger qui prend sa brebis, là, qui est en besoin, et puis qui lui prodigue les soins dont elle a besoin pour elle en tant que brebis. Et puis, il ne le fait pas d'une façon froide, là. Il est ému de compassion. Il sait qu'elle souffre. Il sait qu'elle a besoin. Et puis, il laisse tout de côté. Puis là, il s'en occupe. Verset 35, le lendemain, il tira 2 deniers. Hein, cet homme, ce Samaritain, il tire 2 deniers. À l'époque, 2 deniers. 2 jours de travail à ton salaire. Tu gagnes 500$ par jour. 1 000$. Tu gagnes 10$ de l'heure, 12 heures par jour, 240$. Tu gagnes 10 000$ par jour, 20 000$. C'est 2 journées de ton salaire. À l'époque, deux deniers, un denier, c'était le salaire d'un ouvrier quelconque, 12 heures de temps. Un denier par jour. Alors, deux deniers, deux journées de salaire, c'est considérable. Et avec deux deniers à l'époque, on pouvait faire vivre quelqu'un dans un inn, un petit auberge, là, pas la place où nos présidents et nos politiciens vont dans les hôtels. Vous savez, quand ils s'en vont en voyage, là, on voit des factures, des fois, ils s'en vont dans des voyages. Dans le fond, ils pourraient se contenter d'une chambre à 175 $200, une chambre à 250 la nuit, là, t'es aux petits soins. Là, Mais hein, on entend des affaires de 700, 1000, 2000 la nuit, une chambre. Alors, à l'époque, une petite auberge, une place pour prendre soin de toi, 2 mois, avec 2 deniers, tu pouvais passer 2 mois de temps dans un inn. Vous imaginez-vous ce qu'il a fait, le Samaritain? Il a permis, parce que la personne était presque morte. Il savait bien que ce n'est pas en 24 heures qu'il va être guéri. Alors, il l'a emmené dans un inn, il a été prêt à investir. Puis en plus, il rajoute, il tira 2 deniers, les donna à l'autre, et il dit, « Aie soin de lui. » Et voyez-vous, là, c'est le même, « Aie soin, là, prends soin, là. » Pas là, tu feras comme qu'on fera avec les personnes âgées aujourd'hui, là, dans le personnes âgées, là. Tu le gaveras, puis tu le laveras une fois par mois. C'est pas ça, là. Prends soin, là, comme c'est écrit là dans les Écritures, là. On aimerait tous ça, être pris soin comme ça. Parce que, écoute, c'est le Maître qui prend soin de toi, de moi, de cette façon. Alors, imaginez comment est-ce qu'on est vraiment aux petits oignons. Alors, c'est de cette façon-là. Et ce que tu dépenseras de plus, probablement, c'est quasiment impossible, là, mais si jamais tu dépenses de plus dans la mesure du normal, je vais te le rendre à mon retour. Et là, au verset 36, le Seigneur, il dit, il regarde le docteur de la loi, il lui dit, lequel de ces trois, regardez bien, il a inversé le Seigneur. Il dit pas, c'est qui mon prochain? Regardez, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est pas d'essayer de chercher qui pourrait bien être mon prochain. Aujourd'hui. Non. C'est toi, c'est nous. On doit être, on devient le prochain de quelqu'un qui est en besoin. Et là, le sacrificateur n'a pas été capable de dire le mot samaritain parce qu'il ne voulait pas avilir ses lèvres, parce que le mot samaritain est tellement impur, il ne voulait pas se salir. Alors, il a dit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et là, la phrase qui tue, et le Seigneur lui dit, va, et toi, fais de même. Pauvre docteur de la loi. Parce qu'un docteur de la loi, qui est mon prochain, vous savez, le docteur de la loi, il a dit, et puis là, il voulait le piéger. C'est qui mon prochain? Montre-nous ça, c'est quoi notre prochain, là, toi qui es si intelligent, si fin. T'arrêtes pas de nous dire ça depuis 3 ans. Vous savez, pour un sacrificateur, un gentil, tu ne t'approchais pas de ça. Tu ne trouvais pas ça, tu ne regardais pas ça. Un berger, c'est trop humble, un berger. C'est pas propre, c'est sale avec les bêtes. Les pauvres, ça pue, c'est pas beau, c'est mal habillé. Ça traîne partout. Les Samaritains, Samaritains. Quand il faut aller en Galilée, là, on traverse le Jourdain, là, bien droit dans l'Est, on traverse le Jourdain, puis là, on monte au nord. On ne passe même pas en Samarie, on ne veut pas salir. La poussière qui est à terre va salir mon âme sur lequel je vais être, puis je vais être sali. Je ne peux pas passer en Samarie. C'est trop. Samaritain, un lépreux. Oh. c'est bien trop dégueulasse à regarder un lépreux. Ça ne pas ça. Un collecteur de taxes, ah, Joe, hey, des amis des Romains. Collecteur de taxes, ça faudrait peine de mort. Les pécheurs, tu sais, ceux qui. Pécheurs, ceux qui ne s'occupent pas de la loi de Dieu. Puis, ah, les femmes! Les femmes, chez jamais, elles sont impures. C'est toujours impur, une femme, ça. Tu ne peux pas t'approcher de ça. Quand tu vois une femme, t'en vas. Une femme. Hey. Les itinérants, les pires ratés de la société. Voilà, tu oublies ça. On devrait les envoyer dans une île, comme qu'on fait avec les lépreux, hein, dans la vallée des lépreux. Les infirmes de toutes sortes, ben, c'est pas beau, les infirmes de toutes sortes. Hein. Bah. Les prostituées, hein, ça c'est terrible, ça s'attaque, mon homme. Ouf! Les meurtriers, les voleurs, les Romains! Ah, les Romains! Ah, les Romains! Ça c'est la pire malédiction que la terre a connue, les Romains. Alors, tout ça, là, c'est exclu pour le prochain d'un sacrificateur. C'était quoi un prochain? Le prochain, c'est pour ça qu'il pose la question. Ah oui, mais c'est... Je suis un sacrificateur, moi, là. Tu sais, au travers de tous mes blancs, là, autour de moi, là, il n'y en a pas beaucoup qui ont besoin. On est tous corrects, nous, on est tous propres, tous beaux. C'est comme ça qu'il pensait. Et c'est pour ça qu'il était si offusqué, parce que si vous voyez la liste qui est là, là, est-ce que vous reconnaissez le maître, vous? Hein? Reconnaissez-vous le maître dans tout ça, là? Moi, je vois le maître, là, partout. Le maître qui s'approchait d'eux et qui purifiait. Au lieu de s'avilir, il s'approchait de tous ces gens-là. Il n'avait pas peur et il les purifiait. Il leur faisait du bien. Évidemment, ceux qui voulaient continuer, hein, comme qui dit à la prostituée, va et ne pêche plus. Hein, et pour beaucoup, c'est ce qui est arrivé. Évidemment, on sait qu'il y en a qui veulent rien savoir et qui veulent continuer à être comme la truie lavée, mais qui tourne dans son bourbier. Le Seigneur n'a jamais forcé personne. Mais le Seigneur, le Maître, il s'est approché de nous parce qu'on était dans cette liste-là. On était hein, un gentil. On était peut-être un pauvre aussi, hein. Un lépreux spirituel, puis hein, un meurtrier, un prostitué, un voleur, un romain. Et le Seigneur s'est approché de nous. Et il s'est occupé de nous. Il a payé pour nous. Hein? Il a payé pour nous. Pour qu'on soit hein, guéri. Pour qu'on ne soit plus entre les mains du malfaiteur, hein, de Satan. Il nous a complètement délivrés. Alors, pour un docteur de la loi, le prochain, voyez-vous, c'était toute une leçon pour lui. Forcément, force est de croire que ce docteur de la loi a été durement frappé cette journée. Dans les Écritures, on voit le Seigneur parler souvent de doulos, un esclave, le mot en grec, hein, qui parle d'un esclave, une attitude d'esclave, c'est un serviteur, et non pas un diakonos, un serviteur, hein, un diacre, un officier qui va prendre des fonctions et qui a un statut d'officier, mais un doulos, un serviteur comme le soir avant la crucifixion, quand le Seigneur est avec ses apôtres. Et puis, il s'est oint avec un vêtement là, d'esclave. C'est ça qu'il avait fait un nœud. Et puis là, il s'est agenouillé. Et puis là, il a pris les pieds de ses apôtres. Il les a lavés, hein, symboliquement. Puis, il a pris son linge d'esclave. Il les a lavés. Quelle belle image! C'est ça que le Seigneur veut qu'on fasse. Luc 22, 24, 27, il y a beaucoup de versets où est-ce qu'on voit ces belles images. Luc 22, 24 à 27. Les apôtres, hein, il y a une contestation, lequel qui est le plus grand entre eux? Luc 22, 24 à 27. Et puis là, Et Seigneur, qu'il leur rappelle, dans le monde, quand on est important, on se fait servir. Puis on est beau, puis on est bien habillé, puis on a des serviteurs, puis on ne salit pas les doigts. Parce qu'on est important. On est un ministre. Comprenez? Mais Seigneur Jésus, il dit que si tu as toutes ces qualités, parce qu'un ministre, c'est quand même quelqu'un qui n'est pas comme moi, là. Comprenez? Il a plus de capacités. Comprenez-vous, en tant qu'être humain, là? Il a plus de capacités que moi dans tel domaine. Mais, alors, à cause de ses qualités d'humain, alors on met à sa disposition plusieurs serviteurs pour le servir. Il y a des contextes qui s'expliquent, puis que c'est normal. C'est pas de ça dont je veux parler, mais le Seigneur, il veut mettre un emphase sur que quand, dans le monde, c'est comme ça, entre nous, c'est pas comme ça. On doit, au contraire, comme qu'il le dit, au verset 27, 26, qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car qui est plus grand à la table? Hein, c'est celui qui est assis, pas celui qui sert. Mais le Seigneur, il dit, moi, je suis venu. Moi, le Seigneur, le maître. Et je suis venu comme serviteur. On recule un petit peu dans l'évangile de Marc. Marc 10. Marc 10, 35 à 45. Marc 10, Jacques et Jean, hein? Oh monsieur, qui veulent la place à gauche et à droite. Et là, au verset 32, le Seigneur les appela et leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations, un peu la même image, tyrannisent le peuple, tyrannisent leurs serviteurs. Hein? Et les grands de ce monde, ben, dominent sur les serviteurs. Mais ceux, dans l'Église de Christ, ceux, les leaders, non, c'est pas comme ça, on est des bergers. Et que, hein, il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit un doulos, un esclave douloureux. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie, comme la rançon de beaucoup. Et c'est là où ce linge d'esclave, quand le Seigneur se sent de ce linge d'esclave, c'est profondément significatif. Quand on considère qui il est, le Maître, le Seigneur de gloire, se vêtir d'un linge d'esclave qui nous va bien, qui nous sied bien, c'est ce qu'on est. Des grains de sable. Et pourtant, il nous élève. Hein? Il nous appelle ses frères. Je m'en vais vers mon Dieu et votre Dieu, vers mon Père et votre Père. Je ne vous appelle plus serviteurs, mais mes amis, parce que je vous fais savoir et connaître ce que je sais. Quel privilège qu'on a reçu. Et dans Philippiens, hein, vous connaissez les paroles de Philippiens. Philippiens 2, comment le Seigneur il s'est humilié, hein? Il s'est humilié. Il prend une stature d'homme, bien qu'il était égal à Dieu, hein? C'est Dieu! Et il s'est humilié à se ceindre d'un vêtement d'esclave. Et il ne fait aucun cas de sa vie. Toute sa vie a été dédiée, hein? L'Épître aux Hébreux est là pour nous rappeler que le Maître, bien qu'il était parfaitement Dieu, parfaitement tout-puissant, Jamais sa divinité et son statut de fils ont interféré pour amoindrir ses souffrances, pour se payer à la traite un peu, là. Faire semblant qu'il souffre, mais il ne souffre pas, ou se faire payer une coupe de bon pas, ou des privilèges, non. Le Seigneur a pleinement goûté la mort. Pas euthanasié, pas engourdi. Bien qu'il était fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Quel exemple, maître! Alors, toute cette image de bon samaritain prend une force incroyable. Jacques 2,8, l'épître de Jacques, Il a raison de le dire, Jacques. Jacques 2,8, hein, il l'appelle la loi royale. Et que c'est beau. Hein? Bon, en français, on dit c'est une épithète. Hein? Il y a quelque chose, là, et on fait une épithète pour le qualifier. Hein, qualifier la loi royale. Cette idée, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et regardez, si vous accomplissez la loi royale, au verset 8, Jacques 2,8, si vous accomplissez la loi royale, c'est quoi la loi royale? Selon l'Écriture, c'est ce qui avait de plus cher au cœur du Maître. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ça va loin. J'ai mis en vers Lévitique 19-18. C'est là où est-ce qu'on trouve cette idée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'était là depuis le début. De prendre soin de son prochain, de devenir le prochain. Et vous voyez, alors, ça c'est nous. Et j'aimerais là qu'on se lève tout le monde debout. Levez-vous tous debout, s'il vous plaît. C'est une image, une leçon d'objet pour nous rappeler, pour nous incrustrer dans... Alors ça, c'est nous de vue d'en haut, là. Comprenez? D'en haut, là, on voit ça, c'est moi au milieu. Et mon prochain, là, c'est au bout de mes deux bras. Vous voyez? C'est comme ça. Alors, mettez vos bras comme ça, frère et soeur, regarde. On devient le prochain de quelqu'un. Regarde, c'est pas loin, hein? Je veux dire, quand on fait des œuvres en Afrique, là, ou les orphelins en Ukraine, là, c'est pas notre prochain, ça. Ça, c'est, on fait des belles œuvres. On fait des dons, des choses comme ça. Notre prochain, là, c'est dans ce rayon-là. On devient. Comme le bon samaritain, quand il est parti, là, il n'était pas le prochain de cet homme. À force de s'approcher de cette personne en besoin, il est devenu le prochain. Et c'est ça ce que le Seigneur, il cherche pas, c'est qui ton prochain. Tu deviens le prochain. Vous pouvez vous asseoir, merci. Vous comprenez le rayon. On devient le prochain de quelqu'un. Et partout où est-ce qu'on est dans notre vie, chez nous, ma femme et mes enfants, c'est pas vraiment mon prochain. C'est ma femme et mes enfants, comprenez-vous? C'est mon devoir d'en prendre soin, comme le disent les Écritures. C'est un engagement solennel. Mon prochain, c'est... Je sors de chez moi et partout où je m'en vais, je deviens le prochain de quelqu'un qui va être en besoin. Et il faut être sensible au Saint-Esprit pour ça. Parce qu'on est souvent passé à outre dans la journée. Souvent, on décide quand est-ce qu'on va être samaritaine. Quand on voit que c'est beau, que ça profite, qu'on ne salit pas trop les doigts, on est content. Là, on décide d'être samaritaine. Mais le reste du temps, on n'est pas sa route. Ça fait notre affaire. On n'a pas le temps. On n'a pas d'argent à investir là-dedans. Souvent, être le bon samaritain, là, c'est-tu vrai? Pour être un bon samaritain, il faut souvent sortir notre portefeuille. Rares sont les fois où est-ce que tu n'as pas besoin de sortir ton portefeuille pour être samaritain. C'est ce que le Seigneur nous montre, c'est ce que le Seigneur a fait. Rares sont les fois, oui, ça arrive, mais rares sont les fois. Et c'est pour ça que souvent, on est plutôt passé à outre. On a toutes sortes de raisons, toutes sortes de justifications. La liste, vous l'avez vu, elle était longue pour ressembler aux sacrificateurs et aux lévites. Alors, ce sont tous des versets qui nous montrent cette loi royale, spéciale au cœur du Maître. Et finalement, va, toi, et fais de même. On a tous nos responsabilités individuelles en tant que ce que nous sommes. Mais certainement cette semaine, en traversant les portes, là, les portes de l'oubli, hein, quand on sort de ces portes-là, On dirait qu'il y a comme un rayon électronique qui fait que tout ce qu'on a entendu, on l'a oublié. Non. Je sais que c'est pas comme ça, mais juste le fait de le mentionner, quand on va traverser les portes, là, on va faire un effort pour s'en rappeler. Parce que c'est ça, le Seigneur nous répète, il nous répète les choses, afin qu'on ne les oublie pas. Et que cette semaine, qu'on puisse être capable de faire de même, comme le Seigneur l'a fait. Et certainement, on va devenir, le Seigneur fait en sorte que des contextes arrivent et on devient le prochain de quelqu'un. Mais que le Seigneur nous donne la force, même si on trouve qu'on est gêné un petit peu, même si on a peur de dépenser. Vous savez, là, il y a plein de choses qui nous restreignent de devenir. On l'est, dans le fond. Et le Seigneur, il dit, celui qui sait faire quelque chose, il ne le fait pas, commet une faute. Alors que le Seigneur nous aide cette semaine à accepter de devenir et d'être le prochain de quelqu'un et de glorifier le Seigneur avec ça. On en tire de grandes satisfactions. Il dit dans Actes 20, 35, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Seigneur, encore une fois, merci pour toutes ces belles paroles que tu as laissées dans les Écritures, toutes ces belles images fortes qui nous parlent de toi premièrement, qui nous montrent comment tu es, qu'est-ce que tu as fait, la façon que tu marchais, que tu parlais, que tu interagissais avec les gens. Seigneur, est-ce que tu es beau? Et s'approcher de toi, il nous fait peur à la fois. Parce qu'on n'est pas capable de te ressembler. C'est trop beau, c'est trop grand, trop lumineux. On a raison d'avoir peur. Seigneur, merci pour cette grâce, cette miséricorde que tu as eue envers nous, que tu continues à avoir. On te demande de nous bénir, de prendre soin de nous cette semaine et de nous aider avec. Seigneur, c'est ça. Ton joug, ton fardeau sont légers, mais étant ce que nous sommes, il nous est difficile de te suivre pas à pas. Et dans ta grâce et ta miséricorde, Seigneur, rends-nous plus que vainqueurs et aide-nous à te glorifier et t'honorer au travers de cette image d'être le prochain de quelqu'un et de l'aimer comme soi-même. Amen.